Bonjour chers auditrices et auditeurs de Radio Judaïka, bienvenue dans l'émission Kol Hillel, proposée par la communauté israélite libérale de Belgique, synagogue Beit Hillel. Dans notre précédente émission, nous nous sommes entretenus avec le rabbin Marc Neger du judaïsme libéral, de son histoire depuis sa genèse au XVIIIe siècle, de sa place dans le monde juif d'aujourd'hui et de ses défis pour demain. Gaël, pour sa part, nous présenta la lettre hébraïque d'Aleth, sous un jour on ne peut plus original. Si vous n'étiez pas à l'écoute de Radio Judaïka il y a 15 jours, je vous rappelle que nos précédentes émissions peuvent être téléchargées sur notre site www.bethillel.org. Gaël et Rabbi Neger, bonjour.
Bonjour Jacqueline, bonjour Rabbi, bonjour chers auditeurs et auditrices.
Bonjour chers auditeurs, bonjour Jacqueline, bonjour Gaël.
Aujourd'hui, nous allons aborder en votre compagnie, Rabbi Neger, une réflexion sur l'homosexualité. Le judaïsme libéral a rompu avec l'attitude traditionnelle du judaïsme en matière d'homosexualité, avant même que n'émerge la diversité des modèles familiaux ou l'accès à la procréation médicalement assistée. L'homosexualité reste, il faut bien le dire, un tabou qui se traduit au mieux par un silence, même dans notre propre synagogue, silence que vous allez combler de votre voix en notre compagnie dans quelques instants. Mais avant cela, je souhaiterais revenir un bref moment sur un événement intervenu très récemment en Israël et qu'il nous faudra garder à l'esprit tout au long de notre entretien, tant il est vrai qu'il illustre à merveille combien, au contraire des mouvements religieux traditionnels qui s'enlisent trop souvent dans un conservatisme attentiste, le judaïsme libéral s'essaye à poser les justes et bonnes questions dans un monde qui change et qui exige que l'on ne reste pas en retrait de ce qui touche à l'infiniment humain. Le 1er juin dernier donc, le gouvernement israélien a marqué son accord sur une proposition de loi modifiant les critères d'éligibilité à la gestation pour autrui, à la fois pour les couples désirant être parents et pour les femmes désireuses d'être mères porteuses. Cette proposition de loi, à l'origine de laquelle se trouve la ministre de la Santé Yael German, et qui doit encore être soumise au vote de la Knesset, le Parlement israélien, concerne aussi bien les couples homosexuels que les personnes célibataires. La gestation pour autrui était autorisée en Israël depuis 1996, mais uniquement pour les couples hétérosexuels mariés. Selon les nouveaux critères, donc, les couples homosexuels et les célibataires pourront également recourir à cette technique pour devenir parents, et ce jusqu'à l'âge de 54 ans et dans la limite de 2 enfants. Quant à l'âge d'éligibilité pour être mère porteuse, il a été repoussé de 36 à 38 ans. La proposition de loi devrait passer le vote de la Knesset sans problème grâce au soutien des députés des 3 partis y étant favorables au sein de la coalition gouvernementale actuelle, outre le soutien des partis de gauche. Jusqu'à présent, les couples homosexuels et les célibataires israéliens étaient obligés d'entreprendre des démarches longues et coûteuses à l'étranger pour devenir parents. L'Inde constituait la destination privilégiée des Israéliens souhaitant recourir à la gestation pour autrui devant la Thaïlande. Alors, Rabbi Neger, dans les sociétés occidentales, l'homosexualité est de plus en plus perçue comme une sexualité comme une autre. Mariage homosexuel, procréation médicalement assistée autorisée aux couples homosexuels, procédure d'adoption d'enfants accordée aux homosexuels. Ces transformations profondes questionnent le judaïsme, d'autant que l'homosexualité est, dans le judaïsme traditionnel, condamnée en termes très durs.
Il faut bien voir que même si le judaïsme a toujours été ouvert et a toujours été capable de suivre les évolutions de la société, on fait face à 2 versets qui semblent très clairs dans le Lévitique, qui sont 18, 22 et 23, que je vais essayer de traduire de manière assez précise, même si ce n'est pas une traduction complètement littérale, littéraliste, parce qu'autrement elle ne serait pas compréhensible. La première dit « Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. » C'est une abomination, ou plus exactement le terme qui est utilisé, c'est « toeva ». Et Lévitique 20:13, si quelqu'un couche avec un mâle comme on couche avec une femme, ils ont commis une abomination tous les deux, ils devront mourir, leur culpabilité est sur eux. Alors, il faut bien voir que là, on a affaire à un interdit qui est difficilement plus clair. Le problème, c'est avant tout la manière dont, traditionnellement, on a réagi et la force avec laquelle on a réagi à ces versets. D'une manière qui induit un jugement moral alors que les versets ne sont qu'une position légaliste. Ils ne disent pas que c'est autorisé, ils disent que c'est clairement interdit. Mais il n'y a pas de valeur de jugement moral plus fort que pour d'autres interdits, en particulier d'autres interdits qu'on appelle la toeva, puisque par exemple la toeva, ça peut être manger des animaux interdits. Donc manger des crevettes, c'est aussi une abomination et une toeva. Donc c'est difficile de voir la portée de cet interdit-là. Et puis, maintenant, on a vu, il s'agit exactement d'un acte très précis qui est interdit, la lecture des rabbins modernes, même dans des courants plus conservateurs, comme les conservatifs américains ou même chez certains orthodoxes, a été renouvelée. Si on prend la position justement des conservatifs américains, elle est intéressante parce qu'ils s'attachent à la littéralité du texte. La littéralité du texte, telle qu'elle est expliquée dans le Talmud, dans le traité Sanhedrin, et comme l'explique aussi Rashi, c'est quoi si quelqu'un couche avec un mâle comme on couche avec une femme? C'est un acte extrêmement précis et décrit, et Rashi va même jusqu'à dire ça commence à tel moment et pas avant tel moment. D'une certaine manière, si je veux être un peu, parce que c'est difficile de pas être très explicite à l'antenne, eh bien, quand Bill Clinton s'était défendu que ce n'était pas un rapport sexuel. Ben, c'est exactement ça. En droit rabbinique, ce n'était pas un rapport sexuel. Après, on peut discuter de la moralité de ce qui s'est passé. Et c'est exactement ce point-là qui est interdit. Et qu'est-ce que répondent les conservatifs et certains orthodoxes? Ben, c'est finalement, cet acte d'intimité entre deux hommes est interdit, mais les autres gestes d'intimité entre deux hommes ne sont pas interdits.
Pas le restant, mais enfin, il n'y a personne pour vérifier. Donc,
Ça, c'est un peu la position, je dirais, un peu voilée dans le responsum des ma sortie. C'est de dire, on n'est pas avec vous dans la chambre à coucher pour voir ce que vous faites. Mmh. Ceci étant, je sais par quelques amis qu'un certain nombre de juifs, homosexuels, conservatifs ou orthodoxes ont cette lecture-là et respectent cette lecture-là. Maintenant, on a aussi effectivement un renouveau de la compréhension et de la réception de ces versets. Par exemple, on a le rabbin Steven Greenberg, qui est le premier rabbin orthodoxe et ouvertement homosexuel, qui a écrit un livre qui a marqué son temps sur ce sujet-là, qui s'appelle « Wrestling with God and Men », « Lutter avec Dieu et les hommes », où il aborde la question de comment vivre lui-même sa propre homosexualité et comment on peut renouveler la lecture de ces versets. Et finalement, une des lectures très intéressantes qu'il apporte et que d'autres ont reprises depuis, c'est de dire qu'est-ce que veut dire celui qui couche avec un homme comme on couche avec une femme. Et l'idée qu'il y a derrière, c'est que puisque la Bible ne connaît pas l'homosexuel, mais uniquement l'acte homosexuel, supposément fait par un hétérosexuel, et c'est là qu'est la différence, alors ce que la Bible interdit, ce que la Torah interdit comme une abomination, c'est celui qu'il se sert d'un homme en remplacement d'une femme qu'il n'a pas sous la main, ou parce que par perversion, il préfère utiliser un homme comme une femme.
En fait, le viol.
Exactement, c'est-à-dire en fait l'idée d'un viol homosexuel, que ça soit dans le cadre d'une affirmation du pouvoir, ou comme malheureusement on le voit chez des hommes qui ne sont pas forcément homosexuels, dans les milieux où les hommes sont confinés pour de longues durées entre eux, comme à une certaine époque les marins, ou la prison, ou même l'utilisation à des fins politiques du viol comme on l'a entendu par exemple aux des humiliations sexuelles qui peuvent pu y avoir en Irak à un certain moment. On est toujours dans la même idée. Et ça, l'idée que la Torah puisse interdire ça, ben c'est très logique et c'est très fort. Mais la Torah n'envisage pas l'individu qui est naturellement homosexuel pour qui le rapport avec un autre homme serait quelque chose de naturel et de désiré. C'est ça que la Torah ne fait pas.
Alors justement, puisqu'on parle de la Torah, le texte est explicite concernant l'homosexualité masculine, vous venez de le dire, mais qu'en est-il de l'homosexualité féminine ?
Ah, l'homosexualité féminine, c'est presque une frustration. Elle n'est mentionnée nulle part directement dans la Torah. Pourquoi c'est presque une frustration ? Parce que finalement, on n'a pas de vrai texte avec lequel lutter et s'engager comme le rabbin Steven Greenberg. On n'a rien. Alors évidemment, les rabbins du Talmud ont clairement interdit l'homosexualité féminine et ont trouvé quelques versets dans la Torah qui pourraient évoquer l'idée que des femmes pourraient avoir des rapports entre elles. Mais dans tous les cas, ça n'a pas du tout pour eux la même portée que l'homosexualité masculine. Ce n'est pas quelque chose qui est considéré comme une abomination, mais plutôt juste comme une indécence, quelque chose qui se fait pas. Et surtout qu'il ne doit pas se savoir en public. Mais ce n'est pas quelque chose de fondamentalement, ontologiquement interdit, comme ils ont l'air de le dire à propos de la relation entre deux hommes. Et encore, d'une certaine pratique entre deux hommes.
Oui, on ne va pas rentrer dans ce détail-là, mais justement, par rapport aux justifications que vous donniez dans le conservatisme, une certaine orthodoxie actuelle où il y avait un glissement justement vers uniquement un certain type d'acte interdit. Il se joue aussi dans l'autre sens, si je puis m'exprimer.
Tout à fait. L'homosexualité féminine n'étant pas fondamentalement interdite par la Torah, elle n'est pas complètement interdite. Et là, on est plus dans le problème de la norme sociale que dans le problème de ce que dit la Torah. Maintenant, c'est vrai aussi que dans la compréhension du judaïsme et dans la norme du judaïsme, les interdits et les autorisations posées par le Talmud, de manière générale, ont pris force de loi. Mais c'est vrai que le judaïsme libéral, comme tous les judaïsmes progressistes, sont prêts à rouvrir certains sujets qui sont traités par le Talmud. Le fait que, effectivement, l'homosexualité masculine soit mentionnée dans la Torah, là, est un vrai problème, même pour le judaïsme libéral, sauf à le lire, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, comme avant tout l'interdit du viol homosexuel.
C'est ça.
Lepaneha, Adonai.
lorsqu'on examine, Rabbi Neger, l'évolution des décisions rabbiniques prises à l'égard de l'homosexualité, force est de constater que le judaïsme libéral britannique ou américain est plus libertaire que le judaïsme libéral européen continental et que même au sein de ce dernier, il n'y a pas un consensus complet aujourd'hui.
Tout à fait. Il faut bien voir que, un petit peu comme l'évolution du statut de la femme, c'est un sujet qui a vu une évolution théorique relativement tôt, mais une mise en pratique qui est arrivée bien plus tard. L'ordination du premier rabbin ouvertement homosexuel a été faite par le mouvement reconstructionniste aux États-Unis, qui est une branche, une toute petite branche du mouvement libéral. En 1984, on a vu le Leo Beck College à Londres accueillir les premiers étudiants ouvertement homosexuels en 1984.
Les étudiants rabbins.
Les étudiants rabbins, bien sûr. Oui. Les étudiants rabbins, bien. D'une certaine manière, le rabbin est un peu l'étalon à l'aune duquel on va mesurer la tolérance vis-à-vis du juif. C'est-à-dire que si on admet qu'un rabbin est homosexuel, par définition, on admet qu'un juif puisse l'être aussi. Donc finalement, c'est une manière de consacrer cette autorisation, ou un interdit d'ailleurs. Et puis, à la fin des années 80 et au début des années 90, on a vu un certain nombre de communautés homosexuelles apparaître aux États-Unis, et même une à Londres. Certaines ont été pionnières dès, je crois, les années 70, mais on en a vu un plus grand nombre apparaître. Et c'est quelque chose de très spécifique aux États-Unis, je crois que c'est plus culturel.
Ça veut dire quoi, cette communauté homosexuelle?
Par certains côtés, c'est un non-sens, et par d'autres côtés, c'est une nécessité.
C'est-à-dire
c'est un non-sens parce que, d'une certaine manière, c'est difficile de se définir comme juif parce qu'on est homosexuel ou homosexuel parce qu'on est juif. Donc, mais en même temps, c'est le reflet, et surtout dans une société qui donne beaucoup de valeur à l'appartenance communautaire, comme la société américaine, à partir du moment où une frange de la population juive se sentait mal à l'aise, voire rejetée dans les synagogues traditionnelles, même libérales, eh bien, elle se sentit le besoin de dire on va créer une synagogue où on sera entre nous et où on se sentira à l'aise. Et où aussi on pourra parler des sujets dont on ne peut pas parler dans l'autre synagogue. Parce que se sentir mal à l'aise, c'est pas uniquement que les gens nous acceptent pour ce que nous sommes, c'est que certains des sujets qui nous tiennent à cœur et qui sont importants pour nous puissent être évoqués ouvertement dans la synagogue. Je vais prendre un exemple parce qu'il a beaucoup touché la communauté américaine homosexuelle. C'est que l'évocation de la relation et du traitement et de l'accueil des personnes malades du sida, c'est quelque chose qui, évidemment, aujourd'hui est plus accepté de manière générale, mais à un certain moment, concernait avant tout la communauté homosexuelle et où les autres communautés n'étaient pas prêtes à en parler ouvertement. Or, c'était pour beaucoup la vie de tous les jours dans la communauté homosexuelle, en particulier masculine. Donc c'est pour ça qu'il y a eu ce besoin de communauté spécifiquement homosexuelle. Maintenant, religieusement, ça n'a pas vraiment de sens, mais c'est parfois un besoin politique et social de faire évoluer.
C'est un besoin sociologique, c'est un
absolument.
Peu...
Absolument. En Europe, maintenant qu'on a vu des prises de position très très claires aux États-Unis du mouvement réformé en faveur du mariage ou de l'union de deux personnes de même sexe, qu'on a vu la World Union for Progressive Judaism également prendre une position très claire en faveur du support de l'union de deux personnes de même sexe à la fois dans le cadre civil et dans le cadre religieux, eh bien le débat s'est ouvert dans toute l'Europe continentale et en particulier dans le monde francophone. Et depuis, disons, 2 à 3 ans, c'est un sujet qui est abordé très souvent dans les communautés libérales francophones, que ce soit en France, en Belgique, au Luxembourg ou en Suisse.
Alors justement, quand vous parlez du judaïsme libéral français, je crois que il y a un document qui a été émis.
Absolument. À la suite, pour essayer de rassembler l'état des réflexions, il y a un peu plus d'un an, en juin 2013, lorsque les communautés libérales francophones se sont retrouvées pour une convention à Toulouse, a été proposé un texte qui sera publié dans le Chauffard dans quelques jours, qui prend position de manière plus nuancée que les mouvements libéraux anglo-saxons et qui d'abord va, de cette manière, je veux dire, dépénaliser l'homosexualité, normaliser l'accueil des homosexuels, normaliser également l'accueil des couples et des familles avec deux parents homosexuels, et d'un autre côté, ouvrir la possibilité claire d'une réflexion sur l'union de deux personnes de même sexe, mais sans en faire quelque chose de nécessaire, voire d'acquis. Parce que les communautés dans le monde européen, continental et francophone en particulier, ne sont peut-être pas encore prêtes pour cette évolution, même si elles sont manifestement toutes prêtes à en discuter.
Alors justement, parlons-en des lieux de socialisation juive que sont les synagogues et les centres communautaires. Ils n'autorisent pas une affirmation homosexuelle, en tout cas en France et en Belgique, vous venez de le dire. On condamne, maintenant, je tourne plus vers les synagogues plus traditionnelles que la nôtre, on condamne l'homophobie, on n'exclut pas les homosexuels, mais on exclut l'homosexualité. Alors, pourquoi le judaïsme libéral, Rabbi Nejem, est-il ainsi un point d'honneur à se démarquer sur le plan des idées, en tout cas, de la tradition, tout en étant, vous venez de le rappeler, encore très timide dans leur mise en application, en tout cas chez nous?
Parce que je pense que la position traditionnelle, même si elle évolue dans les synagogues orthodoxes, de dire on va faire une différence entre l'individu et ses pratiques, l'individu et sa vie privée, je dirais, c'est pas la même chose quand on fait face à quelqu'un d'homosexuel que d'être face, entre guillemets, si vous me permettez l'expression, face à un mangeur de crevettes, quelqu'un qui mange pas cachère. Parce que le fait d'être homosexuel va amener, qu'il le veuille ou non, son identité d'homosexuel d'une certaine manière dans la synagogue, non pas en tant que revendication, mais en tant qu'identifiant social. Comment est-ce que je peux faire, si l'homosexualité n'existe pas, pour présenter la personne qui est à ma droite ou à ma gauche, si je ne peux pas dire que c'est mon compagnon ou ma compagne, que c'est la personne avec laquelle je vis, dans un milieu où on va valoriser justement le fait d'avoir une relation et une famille, et où on établit des relations sociales. Je ne peux pas le cacher. Donc finalement, sans en faire une revendication, je ne peux pas non plus masquer ce que je suis et ce que je vis, jusqu'à un certain point. Il ne s'agit pas justement, comme de manger pas cachère, de quelque chose qui touche qu'un tout petit aspect de la vie, mais ça concerne tout mon comportement tout le temps.
Oui, mais vous dites à juste titre qu'on ne peut pas masquer, mais enfin, il ne faut tout de même pas oublier que dans beaucoup de pays, même en Europe, ce n'est que très récemment que l'homosexualité a été dépénalisée.
Bien sûr, c'est pour ça que c'est si difficile. C'est que finalement, la société n'a que très récemment pris conscience du problème de lois qui n'étaient plus appliquées, mais qui continuaient à exister, qui pénalisaient l'homosexualité. Et donc finalement, le fait d'avouer ouvertement son homosexualité et de présenter son compagnon ou sa compagne de vie, eh bien finalement, crée une certaine hésitation, un certain malaise chez les gens. Et en même temps, on a besoin, par justice, là, d'accepter les gens dans leur totalité, avec le foyer qu'ils représentent, et pas uniquement comme des individus découplés du foyer où ils vivent. Parce que c'est dans le foyer qu'ils vont pratiquer le Shabbat et c'est dans le foyer qu'ils vont élever leurs enfants, quand ils en ont.
Oui, mais je me permets d'encore insister 30 secondes sur cette question de dépénalisation parce qu'elle me paraît quand même importante. Il faut se rendre compte qu'en France, la dépénalisation de l'homosexualité ne date que de 1982, qu'en Angleterre, qui a été très avant-gardiste, vous l'avez dit, puisque ça fait maintenant déjà une trentaine d'années que le Léobec a accepté en son sein des étudiants rabbins ouvertement homosexuels, la dépénalisation en Grande-Bretagne, elle ne date que de 1967, en Allemagne, 1968. Alors, il y a eu un basculement, je dirais, de l'inconscient sociétal absolument extraordinaire en très peu d'années, quand on voit toute l'histoire de l'humanité depuis l'époque biblique, en fait.
Absolument. Le changement d'attitude dans la loi est suivi ou précède, c'est très difficile là peut-être de savoir où est l'œuf et la poule, mais en tout cas, il va marquer une avance ou un avancement par rapport à la capacité de la société à accueillir vraiment les homosexuels en tant que composante de la société. Et on le voit très bien, par exemple, dans la différence des réactions ou de l'absence de réaction entre l'autorisation ou la création de l'union de deux personnes de même sexe en Belgique et en France. En Belgique, j'ai cru comprendre que c'était passé quasiment sans que personne ne fasse de remarques, alors que c'est un pays qui a une forte identité catholique. Et en France, on l'a vu l'an dernier, ça a été des déferlements de haine et des manifestations à n'en plus finir, alors qu'on pensait, a priori, la société globalement plus ouverte. Et le fait, finalement, que l'homosexualité n'ait été dépénalisée qu'en 1982 en France est peut-être lié à la réaction française.
1795 en Belgique, comme au pays, par ailleurs. Enfin bon, ceci est un petit cocorico patriotique qui n'est peut-être pas au bon endroit. Justement, je vous posais la question de savoir pourquoi le judaïsme libéral mettait un tel point d'honneur à remettre tout ceci en cause. Est-ce qu'on est pas très fort attaché à la notion de justice?
Oui, absolument. Pourquoi ça... La question, c'est plutôt de se demander pourquoi c'était une injustice. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a des gens qui se comportent moralement de manière parfaitement acceptable, qui essayent de construire un foyer qui... on ne peut pas nier une partie de leur être. C'est comme si vous demandiez, par exemple, comme j'expliquais
oui,
un peu tout à l'heure...
La justice, Rabbi, la justice, on en a parlé à propos de l'égalité entre les hommes et les femmes il n'y a pas tellement longtemps. Il y a d'autres cas...
On l'avait déjà, effectivement. L'égalité homme-femme, ce n'est pas une tolérance de laisser les femmes avoir le même rôle que les hommes dans la synagogue. C'est une justice d'avoir les hommes et les femmes au même niveau, avec les mêmes prérogatives, les mêmes droits et les mêmes obligations. C'est également un problème de justice que d'annuler le statut de mamzer parce que finalement, il transporte sur les enfants une faute qui n'appartient pas à l'individu, qui appartient à ses parents. Donc, il y a un certain nombre de changements de statut dans le judaïsme libéral, qui sont peut-être les changements les plus forts par rapport au judaïsme traditionnaliste, mais qui sont des nécessités de justice dans le monde où nous vivons aujourd'hui.
Oh, dearly, you are my beloved. Together we stand side by side. Oh, dearly, together we stand side by side.
Tout à l'heure, parce qu'il y a effectivement un problème d'injustice aussi lié aux questions sur l'homosexualité. Mais revenons à l'aspect juridique des choses. Les pays sont de plus en plus nombreux à incorporer dans leur législation nationale le droit pour les homosexuels à adopter un enfant ou à accéder à la procréation médicalement assistée. Un parfait exemple de cette réalité, le cas que j'ai cité en début d'émission, de l'État d'Israël qui s'apprête à faire voter une proposition de loi émanant d'un membre de la coalition gouvernementale actuelle et qui étend notamment aux couples homosexuels la possibilité de recourir à la gestation pour autrui. Bien. Comment estimez-vous devoir répondre à l'avenir au problème de l'homoparentalité ? Comment, en tant que rabbin, allez-vous socialiser ces enfants de couples homosexuels juifs ?
Alors, je vais déjà encore étendre un peu plus les exemples que vous avez donnés, parce qu'il y a déjà un certain nombre d'homosexuels qui élèvent leurs propres enfants qu'ils ont fait dans le cadre d'un mariage hétérosexuel et dont, après un divorce, ils ont obtenu la garde, que ce soit tout seul ou aujourd'hui avec leur compagnon, ou que ce soit même, malheureusement, parfois à la suite d'un décès. Les gens ont des histoires parfois un peu compliquées, soit parce qu'ils n'osaient pas montrer leur homosexualité, soit parce que c'était à une certaine époque la seule manière pour eux de fonder un foyer que d'avoir, que d'épouser un partenaire de l'autre sexe tout en ayant une sexualité ailleurs.
Cachée,
ou pas forcément cachée par rapport à leur conjoint. C'était parfois l'arrangement à accepter, mais dans une anormalité, dans quelque chose qui était...
Une anormalité sociale, en tout cas.
Oui, quelque chose qui était boiteux entre le besoin de leur vie intime et de la norme sociale qui leur était imposée. Et le couple, parfois, y trouvait son compte, même si c'était quelque chose d'imposé par l'extérieur et non pas souhaité par les individus.
Oui, mais les
enfants... Mais eux souhaitaient avoir des enfants.
Les enfants, moi je parle du point de vue des enfants.
Justement, parce que les enfants...
Parce qu'il y a les enfants des couples divorcés, etc., comme vous l'aidez. Mais enfin, il y a aussi tous ces nouveaux enfants issus de...
Non, mais je parle d'enfants de couples divorcés qui retrouvent avec un parent homosexuel qui a fait son coming out après son divorce ou à l'occasion de son divorce. Ces enfants-là, on doit les accepter complètement. On ne peut pas faire payer à ces enfants le statut ou les difficultés de vie de leurs parents, en aucun cas. Et puis, je vais même aller plus loin, on ne peut pas, quand on a un couple homosexuel qui élève un enfant... pour peu qu'il y en ait un qui soit biologiquement le parent et l'autre qu'il soit entre guillemets rien, parce que légalement c'est ce qui arrive souvent, mais qu'il élève...
Non, qui ne sera plus le cas, puisque aujourd'hui on se retrouve dans des structures juridiques qui acceptent cette situation.
On voit arriver ces nouvelles structures juridiques, mais on rencontre déjà des enfants qui n'ont pas attendu, des couples qui n'ont pas attendu cette législation pour exister, et qui n'ont pas attendu non plus la bénédiction du rabbin pour savoir ce qu'ils pouvaient faire, et ils amènent ces enfants... pour des cérémonies de naissance, pour aussi également préparer leur bar ou leur bat mitzvah, et c'est là où je voulais en venir. On est bien dans une absolue nécessité de reconnaître le couple qui élève l'enfant comme un couple, quels que soient les deux individus qui le forment.
Bien sûr, enfin, mais c'est pas évident.
C'est pas évident, c'est quelque chose qui est très très clair, et bien qu'on ait encore assez peu de demandes de ce type-là, je pense parce que les gens ont un peu... d'appréhension et ont tellement eu l'habitude de se faire rejeter par les institutions religieuses et en particulier par les institutions juives quand il s'agit de juifs, qu'ils sont un peu hésitants et un peu mal à l'aise pour aller voir un rabbin. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut... il faut changer l'état d'esprit des gens, et c'est pour ça aussi qu'il faut changer et faire avancer l'état d'esprit de la communauté dans l'accueil de ces familles.
Alors, Rabbi Neger, une dernière petite question. La Belgique a incorporé dans son code civil le mariage entre personnes de même sexe il y a plus de 10 ans déjà, ouvrant ainsi le bal avec les Pays-Bas à une institution aujourd'hui légalisée dans une 20aine d'États. On se trouve là face à un bouleversement radical dans la conception normative même de l'institution du mariage. Vous arrive-t-il en qualité de rabbin d'être confronté à une demande de Brit Ahava, c'est-à-dire d'une alliance d'amour Ce sera ma dernière question.
Alors, je reçois quelques demandes, mais elles sont assez rares, probablement pour la raison que j'ai évoquée avant, c'est que les gens, partant du principe que la demande va être refusée, n'ont pas spécialement envie d'aller en plus se faire humilier pour recevoir une réponse négative. Donc, je pense que beaucoup ne viennent pas demander. Maintenant, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que, et c'est ce qui a été fait dans la déclaration à Toulouse, c'est qu'on n'a pas appelé ça mariage, et on a appelé ça Brit Ahava, alliance d'amour, qui est un terme qui est utilisé dans le Tanakh. Pourquoi ? Parce que la question, elle est très fine, c'est de savoir si finalement, en mettant en œuvre l'union de deux personnes de même sexe, on ne fait qu'étendre l'institution du mariage ou on change quelque chose dans l'institution de ce qu'on appelait le mariage. C'est-à-dire, en fait, il y a peut-être un changement sociétal plus profond que ça, et peut-être qu'à cause de ça, on a besoin d'un autre nom. Peut-être aussi qu'on a besoin de réfléchir à la nature exacte de cet acte avant de pouvoir le mettre en place. Et donc, pour l'instant, on a choisi un mot qui était différent pour qu'il soit neutre, pour qu'on puisse en parler sans qu'il y ait amalgame au niveau intellectuel entre ce qui existait déjà et ce qui pourrait exister aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, à Beit Hillel, la réponse pour ces demandes-là, elle est toujours négative. Il n'y aura pas d'union de personnes de même sexe pour l'instant. Mais s'il y a une demande et si l'évolution de la communauté continue, peut-être que ça pourra se faire dans quelques temps. C'est à la communauté avant tout de choisir si elle souhaite participer à ce genre d'union ou pas. Et c'est important parce que dans le sens même de l'idée de communauté, même si je pense qu'il s'agirait de réparer une injustice que d'autoriser ces unions de même sexe, c'est une nécessité que ça ne remette pas en cause non plus l'unité de la communauté. Créer l'unité dans un couple ne doit pas se faire aux dépens de l'unité de la communauté. Donc il y a un subtil équilibre à trouver et peut-être que la réponse se fera aussi par le fait que certaines communautés libérales célébreront des unions de personnes de même sexe et que certaines autres ne le feront pas. Aujourd'hui, si on prend la situation en Angleterre, les communautés dites libérales du mouvement libéral judaïsme célèbrent des unions de deux personnes de même sexe. Les communautés du mouvement pour réforme judaïsme, qui est l'autre branche du libéral en Angleterre, certaines le font et certaines ne le font pas. Donc on n'est pas obligé de trouver non plus une réponse universelle parce qu'elle dépend avant tout de la communauté. Je voudrais en profiter pour revenir sur la question des enfants et sur l'argument qu'on reçoit régulièrement de toutes les institutions conservatrices, religieuses ou pas d'ailleurs, qui est qu'un enfant doit être élevé par un père et une mère. Il est évident que c'est peut-être une réponse logique pour le bon sens. Mais j'aimerais déjà qu'on repense au nombre d'enfants qui ne grandissent pas dans cet environnement. Et puis, j'ai peut-être été un peu ironique, mais je suis persuadé que le nombre d'enfants maltraités par des parents hétérosexuels est plus élevé que le nombre total d'enfants aujourd'hui élevés par des couples homosexuels. Ce que je veux dire par là, c'est que finalement, ceux qui pointent du doigt l'idée qu'un enfant ne pourrait pas être élevé correctement par un couple homosexuel masquent leur véritable agenda. Ils prétendent vouloir protéger les enfants, mais la vraie motivation, parce qu'autrement ils s'occuperaient des enfants maltraités, la vraie motivation, c'est l'homophobie. Et le vrai problème, au bout du compte, ce n'est pas je dirais le détail des droits ou de la forme de l'union qu'on pourrait pratiquer pour célébrer l'union de deux personnes de même sexe, mais avant tout l'attitude que notre société et que nos communautés ont vis-à-vis des personnes homosexuelles et des couples homosexuels.
שלום שיבוא מטר של חסד על כולנו במהרה שים שלום שתיתן הארץ יבולה שנבוא אל הטובה והברכה שים שלום בשלווה ושירחב ליבנו תן למתוח גשר על התהום שנפתחה בינינו, שנוהב ככה סתם את אחינו, את רענו, שחיוך יזרח בשתיניו כמו שמש על הים. שים שלום, שתבוא שעה של חסד על כולנו במהרה. שים שלום, שתשקוט הארץ על גבולה, שתבוא אל הטובה והברכה. שים שלום, שנשבור את החומה ומאום לא יחידנו, שנסיר מחסום מן הנשמה וכעס מבינו. תן סימן, שים נתיב השער לפנינו, שנלך בשביל אחרי האור לטוב ולהיטיב. שים שלום, שנביא מידה של חסד על כולנו במהרה. שים שלום, ושקטה הארץ על גבולה ותבוא אל הטובה. אחת ברוח שילדי התמים לא ידע מחוב או צער, ושכל ימיו תביט עליו בחן ורחמים. שים שלום, לחיים ולברכה. שים שלום, שים שלום, שים שלום.
גאל, vous vous proposez de nous raconter aujourd'hui, que nous avons abordé avec le rabbin Marc Neger, le thème de l'homosexualité, une lettre de l'alphabet hébraïque au très fort humanisé.
Oui, en fait j'ai choisi d'aborder la lettre He, qui est la première figure humaine de l'alphabet. Nous savons que la forme de nos lettres carrées trouve son origine dans les hiéroglyphes. Et justement dans les hiéroglyphes, le pictogramme à l'origine du He représente un homme ou une femme dans une attitude de prière, bras élevés, ce qu'on appelle un orant dans l'art religieux. Dans la partie supérieure de cet orant, nous voyons déjà la forme de notre he hébraïque et du e grec et latin. Un homme en pleine conscience de la transcendance qui tente de communiquer avec Dieu. Que ce soit en hébreu, en phénicien, en grec ou en latin, la lettre représentant la prière est chaque fois la cinquième lettre de l'alphabet. Elle représente à la fois l'humilité et la dignité. L'humilité, car l'homme comprend qu'il n'est pas maître de sa vie et de son environnement. Dignité, car la prière est les paroles de l'être priant qui se veut agissante. Face au chaos, la prière donne une prise à l'homme sur son destin. Il n'est plus le jouet du ou des dieux ou du hasard. Que ce soit pour une naissance, la puberté, le mariage, la mort, ou pour faire face à des intempéries, inondations, sécheresses, etc., ou même à des épidémies, toujours l'homme a prévu des prières particulières. Plus que toute autre chose, la lettre est formée de droite, qui présente une ouverture vers l'avant, une ouverture qui permet au souffle de passer, le souffle de la vie. Or, en hébreu, les niveaux de l'âme s'expriment par différentes qualités du souffle. La prière est ce flux de vie et de parole qui élève la créature vers son créateur. Le « hé » est aussi présent par deux fois dans le tétragramme « yod-hé, vav-hé ». Et comme on ne peut écrire les quatre lettres à la légère, la lettre « hé » sert à remplacer le nom de l'Éternel. Il y a quelque chose de tout à fait particulier dans le Sefer Torah, les rouleaux de la Torah. Au verset 4 du chapitre 2 de la Genèse, le « et », cinquième mot d'ailleurs, « Behi Baram » est écrit en plus petit que les autres lettres. « Il est toledot hashamayim ve'aharetz behi Baram ».« Il est toledot hashamayim ve'aharetz » c'est simple, ainsi l'histoire du ciel et de la terre, qu'on peut aussi traduire par « telles sont les origines ». Du ciel et de la terre, ok. Mais la suite est particulière. Behi Baram, quand ils furent créés, ou en les créant, le « est écrit, comme je l'ai dit, en lettres plus petites. Et on peut lire « par le « et » il les créa ». Rabbi Akiba pose la question « pourquoi le monde fut-il créé par le « et » ?» Comme toujours, dans le judaïsme, il y a beaucoup de réponses. En voici une, donnée donc par Rabbi Akiba. Parce que le hé ressemble à un couloir, et que ce monde est semblable à un couloir qui a deux entrées. L'une est grande et l'autre petite. Quand l'homme doit sortir, il sort par la grande. Mais pour y entrer, il entre par la petite. Autre particularité, si on permute les lettres de ce mot Be'ibaram, on peut lire Be'Abraham. Pour Abraham. Le Midrash suggère que Dieu a créé le monde à l'intention d'Abraham, car celui-ci personnifiait la bonté, qui, selon le Zohar, est l'un des piliers du monde. Toujours selon le Zohar, cela laisse sous-entendre qu'Abraham est le seul à avoir réalisé l'objectif fixé par Dieu à l'univers, puisqu'avant sa venue, l'humanité a systématiquement failli à sa mission. C'est ce qui a fait mériter à Abraham d'être l'ancêtre d'Israël, le peuple élu par Dieu pour recevoir la Torah, et permettez-moi d'ajouter la recevoir, l'étudier, et si possible, la pratiquer au mieux de ce que nous pouvons. C'est aussi dans la suite de ce même quatrième verset que la Torah mentionne pour la première fois le nom de l'Éternel par les quatre lettres Yod, He, Vav, He, qui désigne Dieu dans son attribut de miséricorde. Au début, Dieu a créé le monde exclusivement avec l'attribut de justice, Elohim. Rashi explique que c'est parce que l'idéal pour l'homme est d'être jugé selon ses actes, sans recourir à la miséricorde. Cependant, Dieu sait que l'homme ne pourrait survivre sans miséricorde. Et son indulgence, il a adjoint, et sans indulgence, et il a donc adjoint le nom connotant la miséricorde, pour enseigner que la stricte justice serait tempérée par la compassion. Le « et » est une lettre très importante dans notre tradition. D'abord, pour la prononcer, nous devons contracter les poumons, et un effet de souffle exprime sa musique « hé ». Ce travail sur l'expiration est à la base d'une mystique des lettres, et on retrouve d'ailleurs ce travail dans de nombreuses religions. Répétez sans arrêt cette lettre et souffle « Hé, hé, hé ». De grands maîtres juifs du Moyen-Âge comme Abou Lafia ont créé des exercices spirituels de haut niveau en permutant les voyelles sous les consonnes et le mantra suprême est celui du tétragramme qui comporte donc deux « hé ». Notre lettre est construite par trois traits qui représentent les trois dimensions fondamentales de l'univers créé. La longueur, la largeur et la profondeur. Elle est également capitale dans la formation des noms d'Abraham et de Sarah. avant de devenir les fondateurs d'une nouvelle nation et du monothéisme, de devenir nos premiers patriarches et matriarches, ils s'appelaient Abraham et Sarai. L'Éternel ajoute un « hé » après le « resh » de Abraham et remplace le « yod » de Sarai par un « hé ». Ils se voient ainsi chacun pourvu d'un « hé » qui marque la présence du souffle divin du tétragramme dans leur nom. Notons que les rabbins décèlent dans ces deux « hé » ajoutés la complémentarité des deux sexes pour accéder au divin. En effet, ces deux « hé » d'une valeur 5 donnent donc 10, qui est la valeur numérique du « yod », autre consonne du nom ineffable « yod-hé-vav-hé ». Le Zohar précise « Après que le « hé » fut donné à Sarah, son « hé » et celui d'Abraham s'unirent et engendrèrent dans l'en haut. Celui qui en sortit fut le yod. Le hé revêt une fonction essentielle dans la grammaire hébraïque et on le trouve très fréquemment dans le texte, forcément parce qu'il marque le féminin quand il est associé au son a, comme le e en français qui indique très souvent le genre féminin des noms. C'est par lui que la polarité masculin-féminin existe. Autre caractéristique du hé en grammaire hébraïque. Quand il est le préfixe d'un mot, il devient l'article défini, le, la ou les. Et comme il n'existe pas d'article indéfini en hébreu, le « et » seul articule ce qui est défini ou ce qui est indéfini. Si le « et » a la valeur 5, il faut savoir que lorsqu'on l'écrit en cursive, il est composé de deux signes. Un de ces signes est le « kaf », valeur 20, et l'autre est le « vav », valeur 6, ce qui donne 26. CQFD, c'est de nouveau la valeur numérique du tétragramme. En résumé, nous avons donc le hé 5, qui est l'abréviation du nom de l'Éternel, la lettre qui en représente le souffle, les deux hé dans le tétragramme qui donnent 10, c'est-à-dire le yod, autre façon d'écrire son nom, et enfin 26, qui est une nouvelle fois son expression dans le tétragramme. Si l'essentiel de ce qui précède provient de l'enseignement de Franck Laloux, je ne voudrais terminer sans vous apporter ces mots de Favre d'Olivet parlant de notre lettre dans la lettre hébraïque restituée. Ce caractère est le symbole de la vie universelle. Il représente l'haleine de l'homme, l'air, l'esprit, l'âme, tout ce qui est animateur et vivifiant.
Gaël, merci beaucoup. Rabbi Neger, vous voudriez ajouter quelque chose ?
Oui, je voudrais ajouter que ceux qui souhaitent continuer les discussions, en tout cas compléter le monologue que j'ai pu avoir ou le dialogue que j'ai pu avoir avec vous, Jacqueline, à la radio, par un face-à-face, ils peuvent toujours venir à la synagogue Beit Hillel, pour Shabbat en particulier. Le vendredi soir, pour Kabbalat Shabbat, l'office est toute l'année à 19h, sauf le premier vendredi du mois à 18h30, où il est un peu plus tôt parce qu'il s'adresse avant tout aux familles, avec de la musique, avec des chansons. Et tous les samedis matins, de 10h30 à 12h30. Et j'espère que vous serez nombreux à venir nous rendre visite.
Nous arrivons déjà malheureusement au terme de notre émission. Merci à vous Gaël pour votre billet du jour sur la lettre « hé ». Rabbi Neger, merci à vous d'avoir accepté de vous entretenir avec nous de l'homosexualité. Merci à vous toutes et à vous tous, chères auditrices et auditeurs, de nous avoir accompagnés jusqu'ici. Si vous avez manqué une partie de l'émission, vous pouvez l'écouter à nouveau en vous rendant sur le site www.bethillel.org dans l'onglet « Publications ». Au nom de toute l'équipe de la communauté israélite libérale de Belgique, synagogue Beit Hillel, je vous souhaite une excellente fin d'après-midi et vous dis à très bientôt. Yo me enamoré de un aire, ah, ah.
otra vez me enamoró. Me enamoro.